Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes en partenariat avec Amadeus Piano. Une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue à tous et merci d'être encore au rendez-vous de Mélomanie, le magazine de l'actualité musicale classique et lyrique à Toulouse et en Midi-Pyrénées. Il y a eu justement une grosse actualité la semaine dernière, comme il y a aussi beaucoup d'événements à annoncer pour la semaine qui vient. Les orchestres, les musiciens, les chanteurs présents sous nos latitudes ne baissent pas la garde. Ils continuent d'occuper la scène et nous n'allons pas nous en plaindre. Pour parler de tout ça avec moi, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui trois invités dans ce studio où je salue le retour d'Anne-Marie Chouchan, chroniqueuse musicale à la Dépêche du Midi. Elle est accompagnée de Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour Culture 31 et le journal La Voix du Midi, et de Robert Pénavert, l'autre cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, également chroniqueur pour Culture 31 et les journaux Côté Toulouse et La Voix du Midi. Bienvenue à tous les trois et merci d'avoir répondu une fois de plus à mon invitation. Nous allons revenir tout de suite sur l'actualité récente en abordant la première partie de cette émission qui lui est entièrement consacrée.
Mélomanie. Retour arrière.
Et la semaine dernière, c'était le lancement très attendu de la série des représentations de Carmen au Théâtre du Capitole. Il y en a 7 en tout, il en reste encore 3, celle du dimanche 15, du mardi 17 et du jeudi 19 avril. Anne-Marie, Robert et Serge, vous avez assisté tous les 3 à une des représentations données jusqu'alors. Comment se porte notre cigarière préférée et comment l'avez-vous retrouvée sur scène 9 ans après sa dernière apparition au Capitole ? Alors pour ma part, les réactions que j'ai pu recueillir m'ont laissé entendre que cette nouvelle production avait été diversement appréciée. Qu'en est-il pour vous ?
Anne-Marie ?
Oui, voilà. Oui, apprécié, je ne sais pas. Les gens que j'ai interrogés dans le public lors de la première étaient loin d'être hostiles à ce nouveau Carmen. Ils aimaient en général, mais c'est vrai que le public aussi qui va voir Carmen, bon, on va voir Carmen. Ils aiment Carmen, c'était Carmen, voilà. Personnellement, j'ai plutôt bien apprécié la production mise en scène par Jean-Louis Grenda. J'ai trouvé que cette production était sobre, avec des décors non réalistes, des décors qui campaient un univers qui était un peu espagnol parce qu'il y avait des détails qui rappelaient qu'on était en Espagne. Mais en même temps, c'était très dépouillé, avec des grands panneaux qui s'ouvraient, se fermaient pour définir des espaces différents. Et il y avait aussi des projections. Finalement, l'ensemble, je trouve, ne fonctionne pas mal. C'est un Carmen qui ne veut pas non plus transposer l'action de l'opéra le plus joué au monde, dans un autre siècle, qui se déroule à la fin du 19e siècle apparemment, et qui a comme atout également d'être présenté dans la version avec les dialogues, qui est la version originelle qu'avait vue Bizet et qui après est devenue une version avec récitatif de Guiraud après les premières représentations. La distribution, personnellement, bien sûr qu'il y a le formidable Don José de Charles Castronovo, qui est vraiment là somptueux dans tous les domaines, qui est à la fois comédien, à la fois chanteur, tout à fait maître de toutes ses notes dans ce rôle bouleversant. Et quant à Clémentine Margen, c'est une jeune chanteuse encore, elle a que 34 ans, elle connaît ce rôle pour l'interpréter déjà sur des grandes scènes mondiales, dont le Metropolitan Opera de New York, et je crois qu'elle a pour elle un physique naturellement un peu sauvage, disons. Je pense que sa Carmen est sans affectation, assez naturelle en fait, avec un timbre de voix qui est un beau timbre de mezzo avec de belles notes graves et qu'elle campe un personnage qui peut ne pas plaire aussi parce qu'elle est, je pense, naturelle en fait. Elle est elle-même et elle n'est pas sophistiquée. Je crois qu'elle n'en rajoute pas parce que c'est elle. Après, on peut voir ce Carmen d'une autre manière. C'est vrai que la Carmen de Anna Caterina Antonacci, qu'on a vue à Toulouse il y a 9 ans, avait beaucoup d'atouts et que donc on peut peut-être préférer l'une ou l'autre. Là, c'est une question aussi de goût, d'approche personnelle. Voilà ce que je peux en dire.
Bon, ben voilà. Ouais. Alors effectivement, Eric, comme vous le disiez très justement, les avis sont assez partagés. En résumé, mais on va aller plus loin évidemment, on va parler de la distribution de Marie tout à l'heure. Hein. Tu as commencé à parler de Charles Castronovo. Mis à part justement Charles Castronovo que tu soulignes, pour moi, cette Carmen, c'est tout ce que je ne veux plus voir dans Carmen. Au XXIe siècle, c'est plus possible de présenter une Carmen pareille. Cette production, tu vois, Anne-Marie, moi, je n'ai pas du tout marché dans cette production parce que je la trouve bourrée de clichés, de ce qu'on appelle trivialement des espagnolades, évidemment. Pardon à nos amis espagnols. Non, ça, je supporte pas cette danseuse de flamenco qui quitte pas la scène. Voilà, et on se demande bien pourquoi elle est là. Elle fait pas du tout avancer l'action, parce que tout le monde a compris quand même que l'action se passait en Espagne. Puis ensuite, ces deux coques pivotantes qui, de temps en temps, enserrent l'action volontairement, bien évidemment, dans une espèce d'entonnoir. Alors, on comprend bien ce que ça veut dire. L'action se recentre parce que le drame va se préciser, se jouer, etc. Bon, d'accord. Sauf que le metteur en scène n'a pas du tout pensé au public. Ben de ce fait, moi, j'ai entendu, en particulier à la fin, bon nombre de spectateurs qui disaient « Oui, mais attendez, c'est bien joli, mais nous, on ne les a pas vus. » Parce que si vous étiez trop à jardin ou trop à court, ben vous ne voyez pas ce qui s'est passé au centre d'eux. Évidemment, c'était la reine, bien évidemment, mais enfin, pour ceux qui ne l'auraient pas compris, mais là, je pense qu'à la fin de l'opéra, si on n'a pas compris qu'il s'agit des amours d'une bohémienne avec un toréador, c'est qu'on a un peu dormi pendant le spectacle. Donc voilà, moi, cette production, je n'ai pas du tout, du tout, du tout fonctionné. Elle n'apporte rien. En plus, bon, Anne-Marie, tu nous dis que cette Carmen, Clémentine Margaine, c'est elle. Moi, je ne la connais pas, Clémentine Margaine. Je ne sais pas si c'est elle ou si c'est la volonté de Jean-Louis Grenda.
Je pense que c'est elle. Je l'ai rencontrée. Je pense D'accord. que c'est elle. On l'aime ou on ne l'aime pas, mais oui. Je pense que c'est elle. C'est une fille qui est nature, qui même à la ville n'est pas, comme on dirait, fabriquée. Elle oui. est naturelle. Bon, je pense qu'elle fait le personnage comme elle le sent. Mais c'est peut-être pas ce qu'il faut faire. Je ne sais oui, pas oui. non plus. Mais je pense que c'est elle. Elle est naturelle.
D'accord. Tu veux nous dire par là qu'il n'y a aucun travail de dramaturgie sur le personnage, là, puisqu'elle a été spontanée, naturelle.
Peut-être qu'il y a eu un peu de travail quand oui. même de mise en scène, mais d'elle, je ne crois pas. Je okay. ne crois pas, parce voilà. qu'en plus, je crois que Grenda, après, dit que ça, par contre, c'est la tarte à la crème qui veut faire de cette œuvre et de Carmen le symbole des combats aujourd'hui pour les femmes, etc., que c'est une femme libre à tout prix. Je ne pense pas que Carmen soit si libre. C'est Béatrice Oria Monzon, un jour, qui m'a dit « Moi, je ne crois pas que Carmen soit libre, parce qu'elle est superstitieuse. Et quand on est superstitieux, on n'est pas libre, on est déterminé. »
Très donc, juste.
Donc, je vois le problème de cette liberté, est-ce que la liberté c'est un peu n'importe quoi ou est-ce que c'est quelque chose de plus fort et fondamental ?
D'accord. Alors moi je comprends parfaitement, nous sommes tous là autour de la table à avoir vu XX Carmen, qu'elle s'appelait Oria Monzon, Antonacci ou bien d'autres, hein. Mais cette Carmen à moi ne m'a pas fait vibrer du tout, je n'y ai pas cru. Mais alors pas l'ombre d'un moment, elle n'a aucun charisme. Et le problème, mais on va l'aborder, mais pourquoi pas démarrer maintenant le sujet, c'est que vocalement même, ça se sent dans son chant. Son chant n'est pas châtié. Alors qu'on fasse une Carmen, d'accord, comme on veut, elle, de toute façon, comme je disais, mis à part faire des froufrous avec sa robe, elle ne fait rien sur scène, mais absolument rien. Pour moi, ça me choque un peu, ça, quand même. Et puis alors vocalement, elle ne fait rien non plus. Le problème est là. Et d'ailleurs, le soir de la première, elle a trois airs connus, mais vraiment archi connus, pas un applaudissement. Moi, je serai à sa place, je me poserai des questions. Alors, évidemment, hein, à l'étranger, elle est ovationnée. Eh bien, au Capitole, non. Parce que le Capitole a un passé, a une connaissance de l'œuvre, a eu la chance d'avoir cette œuvre dirigée par Michel Blasson, mise en scène par Nicolas Joël, et ça, là, ça voulait dire quelque chose. Là, non. En plus, le timbre, le soir de la première, entendons-nous bien. Maintenant, peut-être ça s'est arrangé, bon, je ne sais pas. Mais le timbre est très métallique, il n'y a pas beaucoup de nuances, elle prend des libertés avec la partition, le chef lui laisse faire quasiment ce qu'elle veut, et au bout d'un moment, le chant manque beaucoup de charme, mais vraiment beaucoup de charme. Moi, je suis pas d'accord, vraiment non, cette Carmen, non. Heureusement qu'il y avait, comme dit Anne-Marie, très justement, il y avait Charles Castronovo, alors lui nous a menés sur une autre planète, quoi, voilà.
Je crois que par contre, des gens autorisés ont émis des réserves sur le chef. Parce que je pense que même sur Carmen et sur tous les protagonistes, un grand chef peut au contraire discipliner une voix. Lorsqu'il y a un vrai travail avec un chanteur, il y a des choses qu'on peut discipliner, il y a des choses qu'on peut mieux contrôler. Je pense que ça peut expliquer certaines choses.
Effectivement, moi, elle paraissait un peu, alors ça va à son crédit peut-être, mais je n'en sais rien. C'est un peu un procès d'intention. Au point de vue scénique et musical, elle était un peu à l'abandon. Alors ensuite, bon...
pas dirigé, vous voulez dire pas dirigé.
Voilà, c'est ça. Alors, Charles Castronovo, bon, pour moi, aujourd'hui, c'est le plus beau
Don José
qui existe. Voilà, mais franchement, il a la couleur de voix qui correspond à cet opéra qui, n'oublions pas, est un opéra comique. Alors, c'est vrai que lorsqu'il est passé au Palais Garnier, évidemment, c'était plus grand, il y avait davantage de musiciens. Résultat, ce sont des ténors un peu plus dramatiques qui s'en sont emparés. Et nous avons affaire à, non pas des histrions, bien évidemment, c'est pas ce que je veux dire, mais à des ténors, voilà, un peu plus héroïques. Lui revient à la couleur et à la musicalité que doit avoir Don José, capable d'affronter affronter ce redoutable duo du premier acte avec Michaela, et Dieu sait qu'il est difficile, et en même temps de tenir tête au troisième et quatrième acte, autant à Escamillo, puisqu'il y a le duo, au troisième acte, qu'a évidemment le duo final avec Carmen.
Vous l'avez cité, là, on va parler un petit peu des seconds rôles, si je puis dire. Michaela, donc, c'était Anaïs Constant. Comment s'en est-elle tirée? Je rappelle qu'elle est originaire de la région, de Montauban.
Elle est montalbanaise, et nous la saluons, bien évidemment. C'est une prise de rôle. Première fois qu'elle chantait un grand rôle sur une grande scène, avec une grande distribution. Honnêtement, elle arrive en scène au bout d'un certain nombre de minutes. Elle se retrouve à chanter l'un des duos les plus célèbres de tout l'art lyrique, ma mère, je la vois, avec l'un des plus grands ténors du moment. Et elle débute, elle. Moi, si elle a un peu de trac, moi, j'avoue, je le comprends. Et elle est allée au bout de son trac, à mon avis. Évidemment, elle s'est révélée, m'a-t-on dit. Aux autres représentations, ça a été la même démarche. Par contre, au troisième acte, alors tout d'un coup, là, elle explose. On dirait qu'elle a plus cette inhibition du trac, etc. Et c'est vrai que là, on entend une belle voix de soprano qui s'engage. Voilà. Alors évidemment, je serais tenté de dire que quand même, pour l'instant, elle a un peu de travail. Mais pour une prise de rôle, moi, je le salue.
Et puis, au fil des représentations, sans doute va-t-elle prendre de l'assurance. Alors, il y avait aussi Marion Lebec dans le rôle de Mercedes et Dimitri Ivashenko dans celui d'Escamillo. Comment vous les avez trouvé,
hein? J'ai pas trop fait attention à
Marion Lebec.
Non, j'ai pas. Non, c'est vrai que j'ai pas regardé. Je pense que l'ensemble fonctionnant plutôt bien. Dimitri
Ivashenko.
Ce baryton basse qui a chanté un ending de la Valkyrie qui était fabuleux, qui fait d'ailleurs une très belle carrière par ailleurs, a semblé, c'est vrai, quand même un peu mal à l'aise avec surtout la langue française. Je ne sais pas, c'était précisé nulle part s'il a déjà chanté Escamillo. Il lui manquait, c'est vrai, sur le plan purement ne serait-ce que du style, peut-être aussi de la souplesse vocale, une facilité d'émission dans ce personnage. En même temps, Campen Escamillo, il est très grand, qui a une forte présence sur scène. Mais ça reste à vérifier, peut-être qu'avec les représentations, ça s'arrangera, je ne sais pas.
Alors nous l'avons déjà vu à Toulouse, Dimitri Ivashenko, la première fois qu'il est venu à Toulouse, il chantait Bartolo dans Les Noces de Figaro. Et puis ensuite, il est revenu il n'y a pas très longtemps dans Le Prophète, où il était très bien d'ailleurs. Et puis, comme tu dis, Anne-Marie Valkyrie, où il faisait un wounding de classe, en plus en même temps avec une présence scénique. Et voilà, et il a un répertoire plutôt germanique. Et effectivement, comme tu dis, Anne-Marie, il n'a pas cette souplesse d'émission, dans le registre aigu en particulier, que réclame Escamillo.
Oui, mais peut-être aussi que c'était une prise de rôle, là ça reste à vérifier.
Non, c'était pas une prise de rôle.
Non, donc ça reste à vérifier qu'il puisse peut-être mieux posséder ce rôle, mais en même temps c'est vrai qu'il a de la présence scénique et que vu ce qu'il a fait au Capitole précédemment, c'est un chanteur plus qu'à suivre.
Juste un point, ce qu'on appelle les seconds rôles, mais dans Carmen, il n'y a pas
les
de
rôles
second rôle.
Disons,
les rôles secondaires. Et dans Carmen, il n'y a pas, parce que tout le monde sait, les musiciens, beaucoup de musiciens disent que la pépite dans Carmen, c'est le quintet du deuxième acte. Mais pour chanter ce quintet qui est infernal à mettre en place, il faut d'excellents chanteurs. Et là, le Théâtre du Capitole avait réuni 5 chanteurs français, dont il faut le souligner, et ils étaient de très bonne tenue.
Bien. Serge, vous ne souhaitiez pas vous exprimer parce que vous avez cité la générale et vous estimez qu'on ne critique pas une générale.
Une générale est une répétition. Donc, alors je suis de l'avis général en ce qui concerne Charles Castronovo, qui fait une incarnation à la fois vocale et expressive de ce rôle, comme j'avoue ne jamais l'avoir vu ni entendu. C'est vraiment un grand monsieur. Après, pour le reste, disons que mes opinions sont un peu situées entre les opinions de nos deux compagnons.
Un peu plus nuancé, mais un peu la même tendance.
Un peu plus nuancé que Robert. Et un peu moins favorable qu'Anne-Marie, mais je me situe entre les deux.
Je ne suis pas uniquement favorable. Par exemple, Anaïs Constant, c'est bien de l'encourager parce qu'elle est toulousaine, enfin de la région, mais elle a besoin, cette petite, je pense, de s'éclater, comme on dit vulgairement en scène. Le rôle de Michaela, c'est un rôle un peu ingrat aussi, mais que d'autres ont montré quand même un peu plus de sensibilité, que là, pour elle, il s'agit de chanter, et que, bon, elle a encore besoin de démontrer que maintenant, elle peut incarner certains rôles, et je lui souhaite le meilleur pour son avenir, mais c'est délicat pour elle, c'est vrai, même un rôle comme ça qui est même ingrat en fait.
Voilà, donc des avis vraiment très nuancés sur cette production de Carmen, à l'exception de Charles Castronovo qui recueille tous les suffrages. Donc il reste 3 représentations d'ici la dernière, le 19 avril. Donc il y en a une le dimanche 15 avril à 15h, le mardi 17 à 20h et donc le jeudi 19 à 20h. Également, complet changement de registre avec les 3 concerts de l'Orchestre National du Capitole en fin de semaine dernière à la Halle aux Grains, sous la direction de Christophe Mangou et surtout avec le musicien et DJ américain Jeff Mills. C'est la deuxième fois que celui-ci se produit avec l'orchestre toulousain. Il y avait une première en décembre 2016, mais là, il s'agissait d'une commande qui lui avait été faite pour une création mondiale intitulée Lost in Space, qui est ce Jeff Mills. Et qu'était-ce donc que cette création au titre de film de science-fiction? Ce qui n'est pas étonnant, remarquez, parce que pour un orchestre symphonique, il s'agissait bien là d'une espèce d'ovni musical tout de même. Anne-Marie et Serge, vous y étiez, vous teniez à nous en parler. Alors Serge, qui n'a pas trop parlé pour l'instant, dites-nous ce que vous avez pensé de cette création.
C'est effectivement non pas un ovni, mais un objet musical non identifié et non identifiable, puisqu'il marie à la fois le son direct d'un orchestre symphonique complet, nombreux, et donc les imaginations d'un DJ de luxe, que Jeff Mills, il nous a déjà donné l'année dernière et l'année d'avant. Non, c'était en 2016.
Fin 2016.
Une belle représentation. Mais là, je trouve que ça dépasse ce qui s'était produit en 2016. Là, il y a...
Je veux dire quand même qui c'est Jeff Mills, parce que... Oui, bien sûr. En fait, c'est un pionnier de la musique techno, tout simplement.
Exactement.
Qui est né au début des années 60 à Détroit, qui est la capitale historique de la techno. Donc, il a vraiment baigné là-dedans.
Absolument. Et donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'imagination et qui a su écrire à la fois pour l'orchestre et pour les dispositifs électroniques, pour ses platines, donc, qu'il manipule en direct sur scène, une partition qui est étonnante. Alors, cette partition, elle est évidemment arrangée par quelqu'un auquel il faut rendre hommage, qui s'appelle Sylvain Griotto. C'est lui qui a adapté l'imagination de Jeff Mills à l'orchestre et aux dispositifs électroacoustiques. Et puis, il y a un personnage dont il faut parler, qui s'appelle Prabhu Edward, et qui est un joueur de tabla, qui fait des choses extraordinaires. Et alors, l'intérêt de cette œuvre, puisqu'il s'agit cette fois d'une œuvre complète qui progresse, donc l'intérêt de cette œuvre, c'est qu'il y a une fusion entre les diverses origines du son qui est tout à fait bien faite, vraiment extraordinaire. Il y a des moments entiers où on ignore si le son que l'on écoute vient de l'orchestre ou vient des platines de Jeff Mills. Et puis aussi, il y a toute la partie visuelle, la mise en lumière qui est stupéfiante, avec des effets laser extraordinaire, avec des nappes de lumière qui soit nous dominent, soit sur laquelle on a l'impression de marcher. Enfin, c'est vraiment...
C'est une ambiance même de gigantesque boîte de nuit. L'hologramme transformé un peu quand même en boîte de nuit.
Non, je dirais pas ça. Non, c'est pas une ambiance de boîte de nuit. C'est vraiment un spectacle. Un spectacle complet.
Son et lumière, donc.
Oui, un peu son et lumière. Oui, mais ça n'est pas des éclats lumineux qui éblouissent. D'ailleurs, la partition lumineuse, je l'appellerai comme ça, est adaptée à l'hologramme. Elle ne peut pas être transposée dans un autre lieu. Il a tenu compte des piliers qui soutiennent la verrière, il a tenu compte des balcons et toutes les projections sont faites sur des surfaces qui ne sont pas les spectateurs, Dieu merci. Donc, j'ai trouvé ça extrêmement positif. Extrêmement...
Musicalement, c'est vraiment intéressant.
Oui, absolument. Musicalement, il y a des choses, notamment une étude sur le rythme qui est incroyable et qui a été très difficile à mettre au point. J'ai assisté à des répétitions de l'orchestre. Je vous assure qu'il y avait autant de travail que pour une symphonie de Mahler.
Alors moi, je n'y étais pas, mais pour ce que j'ai entendu des extraits, j'ai l'impression qu'il y a une certaine influence des minimalistes américains ou anglo-saxons.
Quelquefois, oui, exactement. Entre autres, oui.
Anne-Marie, vous y étiez aussi. Alors vous, comment vous avez trouvé ça?
Écoutez, c'était une œuvre surprenante, comme dit Serge, qui est inclassable. C'est très différent de la première œuvre présentée par Jeff Mills dans la même Hallograin, parce que la première, d'après mes souvenirs, il y avait beaucoup plus de rythme, c'était peut-être plus proche de ce qu'on appelle la techno, c'est-à-dire au plan rythmique.
Voilà. Et là, effectivement, c'était proche de l'ambiance boîte de nuit.
La première fois. C'est-à-dire, il y a même le public qui était venu la première fois, il y en avait qui voulaient se lever pour danser. Pensaient que c'était quelque chose qui incitait à la danse. Oui. Là, c'était différent parce que c'était une œuvre musicale avec donc des moyens de la techno en même temps, donc les lumières, les jeux de lumière et des choses qui étaient beaucoup plus proches quand même de l'univers classique. Avec des réminiscences de Johann Strauss, avec des réminiscences de Beethoven. C'est une œuvre, c'est vrai, inclassable, qui fait appel à des tas de styles, on peut dire, donc aux lumières largement, et qui est étonnante, c'est une création en soi. Tout en précisant que quand même l'électronique et la musique, l'ordinateur ont depuis assez longtemps pénétrer le domaine de la musique dite classique,
oui,
avec Boulez et avec tous les novateurs Stockhausen, que donc la musique classique est loin d'être imperméable à la musique électronique. Mmh. Mais là, ce qui est nouveau, c'est que Jeff Mills est à l'origine un DJ de boîte, mais qui aussi cherche une autre façon de s'exprimer que simplement la musique de danse, c'est ce qu'il dit d'ailleurs.
Oui, et en particulier, moi j'ai beaucoup apprécié tous ces clins d'œil à la musique classique. Il y a un petit bout d'ouverture des Noces de Figaro de Mozart, il y a le pom-pom-pom-pom de la cinquième de Beethoven, enfin du Strauss, évidemment ça évoque 2001 Odyssée de l'espace, avec des réminiscences du Danube bleu. Bon, Non, c'est intelligemment fait.
Alors, bon, j'ai un extrait de ce concert, Lost in Space, qui va vous permettre de vous faire une idée, vous qui nous écoutez. Donc, Lost in Space, Jeff Mills et l'Orchestre National du Capitole, dirigé par Christophe Mangou. Lost in Space, perdu dans l'espace, donc Jeff Mills et l'Orchestre National du Capitole sous la direction de Christophe Mangou. C'était en fin de semaine dernière à la Lograin. Et maintenant, nouveau changement de registre avec le concert qu'ont donné les Sacboutiers, l'ensemble de cuivres anciens de Toulouse à l'église du Jésus dimanche et au musée des Augustins mardi. Il y a deux semaines, Jean-Pierre Canillac était venu à Mélomanie nous parler du programme qu'allait donner sa formation ces jours-là, un programme intitulé Palladia Tolosa, splendeur musicale de la Renaissance toulousaine, est constitué pour l'essentiel de pièces inédites de compositeurs toulousains du XVIe siècle. Serge, vous avez eu comme moi la chance de découvrir ce programme et ses œuvres, et je crois pouvoir dire que pour tous ceux qui aiment la musique de cette période, ce fut une vraie belle découverte dans un lieu de circonstance, puisque moi j'ai eu la chance de le voir dans l'église du musée des Augustins, où l'on entendait ses œuvres il y a 5 siècles.
Exactement. En fait, il y a eu deux spectacles. Hein. Un premier spectacle dimanche à midi, le dimanche 8 avril. Alors, c'est un spectacle qui est monté dans le cadre de ce qu'on appelle le pôle des arts baroques et qui dépend du Conservatoire à rayonnement régional de Toulouse. Donc, il utilise à la fois les compétences des Sacboutiers qui sont très actifs dans ce domaine du pôle des arts baroques et le chœur de l'Université Jean Jaurès, qui est un chœur amateur dirigé par Claire Subiette. Admirablement dirigé par Claire Subiette, d'ailleurs, je dois dire, et donc avec des solistes qui sont des élèves du conservatoire, des classes de chant du conservatoire de Toulouse. Donc, c'est un mélange amateur-professionnel. Et ça a parfaitement fonctionné. Alors, il faut préciser que c'était un programme qui était établi en liaison avec l'exposition actuelle qui a lieu au Musée des Augustins sur la Renaissance à Toulouse. Sur le plan des arts plastiques, évidemment. Et donc, la musique est venue se greffer là-dessus, ce qui était une excellente idée. Et donc, on a découvert des œuvres, évidemment, que l'on ne connaissait pas, de cette époque-là, composées par des musiciens qui étaient à Toulouse, en particulier le plus important de tous, qui s'appelle Guillaume Bonny, qui était le maître de chapelle de la cathédrale Saint-Étienne, tout simplement. Et donc, il y avait des œuvres musicales qui étaient créées à l'époque, à la fois à la cathédrale Saint-Étienne et dans cette église des Augustins, puisque ça coïncide avec la visite de Catherine de Médicis et son fils Charles IX à Toulouse, où la cour est restée pendant plusieurs semaines et elle était logée aux Augustins, dans le couvent des Augustins. Donc, pour ce qui est du deuxième concert qui avait lieu le 10 avril, on était dans les lieux mêmes où ces musiques ont retenti il y a 5 siècles. Donc vraiment, il y avait un petit côté émouvant et de recomposition.
Ah, ça aurait cru presque.
Ah oui, oui, complètement. Cru, hein. Et donc avec vraiment un programme non seulement très élaboré, très varié, qui faisait alterner le grand chœur, le petit chœur constitué des solistes en question et les instruments des sacs-boutiers qui pénètrent dans l'église d'ailleurs en procession, en venant du fond de l'église et en se déplaçant vers le grand orgue, le fameux grand orgue à Rennes, qui est tenu par Yasuko Uyamabova. Vraiment, il y avait une atmosphère très particulière. Pendant 1h15, on était un peu figé dans cette atmosphère renaissance, mais vraiment...
Mais renaissance toulousaine.
Toulousaine, quand on pense à ça, il y avait aussi une œuvre d'Antoine de Bertrand, qui était un local, plus beaucoup d'œuvres d'anonymes, et donc en particulier, il y avait un document qui est exposé aux Augustins et qui a été retrouvé récemment d'un compositeur anonyme qui était probablement moine de l'époque et qui s'appelle Olumen Ecclesiae et qui est une hymne à Saint-Augustin. Dans l'église des Augustins. Donc, vraiment, on était en situation complète. Et c'est une œuvre vraiment très intéressante qui mêle instruments et voix.
Vous avez bien prononcé, on doit dire une hymne et pas un
une hymne. Hymne. C'est une hymne religieuse. Hymne. Oui,
voilà,
oui.
Parce que c'est une hymne religieuse. Alors, toutes ces œuvres, est-ce qu'elles ont vraiment une parenté entre elles? On constate qu'elles sont vraiment de la même époque par les sonorités, par les thèmes.
Oui, 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 absolument. Alors, pour ce qui est des sonorités, il faut dire que les partitions de l'époque n'étaient pas absolument précises et n'indiquaient pas systématiquement quels instruments devaient jouer quelle musique. Donc, c'est aux musiciens actuels
de reconstituer
ces partitions.
Presque de deviner.
Dans certaines, il manquait des voix intermédiaires qu'il faut retrouver. Ça, c'est du travail de musicien rompu à l'exercice.
Presque de compositeur.
Et presque de compositeur, ce qui a été le cas au cours de ces deux concerts.
Voilà, alors moi, j'ai passé un moment vraiment extraordinaire, effectivement. En baignant dans cette espèce d'atmosphère renaissance par les tableaux, par le lieu.
Le lieu.
Magnifique cette église qui était pleine.
Absolument
qui était pleine.
Hein, on a dû rajouter des chaises.
Mais... public enthousiaste. Alors vous parliez de cet hymne à Saint-Augustin, joué par les sacs-boutiers. Bah, on va en écouter un extrait parce que c'est une œuvre magnifique, hein, vraiment
magnifique.
Anonyme. Je ne sais pas qui a composé ça, mais écoutez, c'est superbe. Hymne à Saint-Augustin, pièce anonyme du XVIe siècle, interprétée par les sacs-boutiers lors des concerts donnés dimanche à l'église du Jésus et mardi aux Augustins pour leur programme Palladia Tolosa, splendeur musicale de la Renaissance toulousaine. Et Serge, vous vouliez préciser quelque chose?
Oui, il y figurait également un autre ensemble d'œuvres qui s'appelle Les Quatrains du Sieur de Pibrac. Pibrac, que nous connaissons, hein. C'est très proche de Toulouse.
Il y a un très beau château, toujours habité par le comte de Pibrac.
N'est-ce pas? Et c'est signé encore Guillaume Bonny. Et c'est une succession de petits quatrains. Il y a 8 quatrains, hein, qui associent à la fois un grand chœur, un petit chœur, des instruments, et qui alternent les compositions d'un quatrain à l'autre. C'était vraiment très varié, très ouvert.
Voilà, alors j'espère, je l'ai dit d'ailleurs Jean-Pierre Canillac après le concert, que peut-être ce programme fera l'objet d'un enregistrement, parce que je pense que beaucoup de Toulousains, et depuis Braquet d'ailleurs sans doute, seraient contents de pouvoir se le procurer, de découvrir et de pouvoir écouter toutes ces merveilleuses pièces du XVIe siècle toulousain. Le lendemain, à Saint-Pierre-des-Cuisines, mercredi, a eu lieu le dernier concert de la saison des Arts Renaissants. C'est une formation très prestigieuse qui s'y produisait ce soir-là, le quintet à cordes de l'Orchestre Philharmonique de Berlin. Ils ont proposé un programme très dense et une exécution de très haut niveau, à la hauteur de leur réputation, en tout cas c'est ce qu'il m'a semblé. Robert, Serge et moi-même, nous étions présents parmi le public qui a eu le privilège d'assister à ce concert qui fut très long, ils ont joué quand même près de 2 heures. Avez-vous été aussi impressionné que moi par l'interprétation et la qualité exceptionnelle de ces 5 musiciens?
Personnellement, oui. Alors franchement, ce qui m'a surtout frappé immédiatement, dès les premières secondes, c'est la précision du trait, du toucher de ces cordes. C'était du cristal, voilà, c'était absolument extraordinaire. Ensuite, ce qui m'a paru évident, c'est l'ampleur du son. On a dit, à certains moments, on a dit un véritable orchestre. Ils étaient 5, hein. Et en même temps, l'ampleur de la dynamique, c'est-à-dire capable de faire des fortés, mais vraiment extraordinaires. Et à certains moments, on se trouvait face à des triples pianos, des quadruples pianos, que l'on entendait parfaitement, bien sûr, hein, mais qui donnent toute une gamme de sentiments, de couleurs vraiment extraordinaires. Voilà, pour moi, effectivement, comme vous disiez, Eric, nous sommes dans la grande légende des cordes de la Philharmonie de Berlin.
Oui, ce mélange, effectivement, de puissance, de subtilité, de délicatesse, qui est rare.
Hein. Oui, il faut préciser qu'il s'agit d'un quintet à cordes très particulier.
Et c'est une contrebasse.
Puisque, voilà, d'habitude, un quintet à cordes, c'est un quatuor auquel on ajoute un deuxième alto ou un deuxième violoncelle. Là, non. On ajoutait une contrebasse. Et donc, c'était en quelque sorte en miniature, un résumé du quatuor à cordes de l'orchestre. Puisqu'il y a un premier violon, deuxième violon, alto, violoncelle et contrebasse. Et donc, moi, ce que j'ai aussi beaucoup apprécié, c'est la succession des œuvres avec des styles extrêmement différents, dans lesquels ils sont très familiers. Hein. Ça commence par un divertimento de Mozart, puis un quintet de Boccherini, qui, comme on le sait, était un violoncelliste virtuose, et donc qui soigne particulièrement le violoncelle. Puis Rossini, une pièce incroyable, une sonate donc
très
la
agréable,
Tempesta,
ouais,
qui était formidable et dans laquelle on a trouvé les extrêmes de cette dynamique dont tu parlais, Robert, avec l'évocation de cette tempête qui commence par des petites gouttes de pluie qui atteignent
comme
le sol.
Comme dans le Barbier de Séville. C'est l'orage du Barbier de Séville qui est là-dedans.
Même la... Et également de l'ouverture de Guillaume Tell.
Et l'ouverture de Guillaume Tell.
Oui, oui. Apparemment, Rossini adorait les orages.
Bon, sans compter qu'on entend dans le thème de cette sonate, on entend également très clairement, à certains moments, on pourrait mettre des paroles, oui. Parce qu'on entend des grandes arias célèbres des opéras de
des opéras à venir, parce qu'il avait 12 ans lorsqu'il a composé cette œuvre. C'est quand même incroyable, incroyable. Et il y a déjà tout Rossini là-dedans, là. La bonhomie, l'esprit, l'humour
et le sérieux aussi.
Et le sérieux. Et puis ensuite, il y avait une œuvre de Tartini, le fameux Tri du Diable, mais dans une version d'Henri Vieuxtemps. Alors Tartini, bon, c'est à peu près l'époque de
la charnière fin du baroque et début du classique.
Voilà, avant Mozart, juste avant Mozart. Alors que Henri Vieuxtemps, c'est le 19e siècle. Hein. Donc c'est une transcription pour violon et cordes, Trier du Diable, parce qu'il prétendait, Tartini, avoir vu le diable au pied de son lit au cours d'une nuit. Enfin bon, il y a une légende qui court là-dessus.
Ce qu'il y a de sûr, c'est que les musiciens qui ont la partition sur leur pupitre et qui sont censés jouer ce morceau, ça, ils voient le diable devant eux.
Voilà.
C'est évident. Hein.
Oui. Non, c'était vraiment très spectaculaire. Et puis, pour terminer, il y avait le concerto en pour cordes de Stravinsky, pièce très brève, hein, où on retrouve le rythme d'une richesse incroyable de Stravinsky.
Et l'originalité de Stravinsky.
Oui, et puis le fait qu'il soit vraiment inclassable au XXe siècle. C'est une œuvre qui date de 1946, hein, donc au lendemain de la guerre. Et enfin, on a achevé tout ce programme, ils achevaient ça par le quintet en mi bémol majeur de Dvorak.
Magnifique.
Magnifique. Oh, oui. Bon, une œuvre qui date de son séjour aux États-Unis, puisqu'il l'a composé. Il était aux États-Unis lorsqu'il a composé ça,
il avait pris la direction, c'était le premier directeur du conservatoire de New York à l'époque.
En même temps que son quatuor américain, donc il l'a composé. Donc, très beau concert avec deux bis extraordinaires, incroyables, avec une fantaisie sur la Sonnambula de Bellini, d'un certain Giovanni Bottesini, que l'on qualifiait à l'époque de Paganini de la contrebasse. C'est ahurissant de voir jouer ça.
C'est une œuvre qui met en avant la contrebasse.
Ah ben bah oui, c'est rare, hein. Contrebasse solo, oui.
On a vu toute la virtuosité de ce contrebassiste. Alors
il faut entendre le contrebassiste en train de faire des reprises ornées de l'air de la sonambule, oui. Avec cet énorme engin entre les
virtuoses. Ce monsieur s'appelle Janusz Wieczyk.
Je pense qu'il est polonais.
Il faut absolument prononcer son nom parce que vraiment c'est quelqu'un d'extraordinaire. Donc, très beau concert, qui termine la saison des Arts Renaissants de manière flamboyante.
Tout à fait, la prochaine saison sera magnifique aussi, on aura l'occasion d'en parler dans cette émission. Et bien, on termine aussi cette première partie avec le quintet à cordes du Philharmonie de Berlin. Rendez-vous dans une minute pour la seconde partie et l'agenda de la semaine prochaine. Restez bien à l'écoute de Radio Présence, à tout de suite.
Vous recherchez un clavier numérique ou un piano acoustique ? Amadeus Piano propose les plus grandes marques au meilleur prix. Amadeus Piano est aussi la clé de vos concerts et de vos événements. Du piano droit haut de gamme au piano à queue de concert, nous mettons tout en œuvre pour vous fournir une prestation de haute qualité. Avec Amadeus Piano, la référence du service et du transport de piano à Toulouse et dans la région, bénéficiez du savoir-faire de Robert Burali, facteur de piano diplômé et accordeur du Conservatoire et de l'Orchestre de Chambre de Toulouse. Retrouvez tous nos produits et services sur amadeuspiano.fr. Amadeus Piano vous souhaite de passer un agréable moment avec Mélomanie.
Seconde partie de Mélomanie avec les invités de ce numéro, Anne-Marie Chouchan, chroniqueuse musicale à la Dépêche du Midi, Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, également chroniqueur pour Culture 31 et le journal La Voix du Midi, et Robert Pénavert, l'autre cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour Culture 31 et les journaux Côté Toulouse et La Voix du Midi.
Mélomanie, l'agenda.
Dans l'agenda de la semaine prochaine, on trouve un des principaux concerts de la saison bleue organisé par Alain Lacroix, lundi au Théâtre du Capitole. Le duo Nathalie Dessay-Philippe Cassard va présenter un programme intitulé « Portrait de femme » lors d'un concert qui va commencer à 20h. Il y a beaucoup d'œuvres au menu, des airs d'opéra de Mozart et de Gounod, des leaders de Schubert et de Pilsner et des mélodies de Chausson et de Debussy. Un programme franco-allemand très varié donc. Nathalie Dessay a, je le rappelle, fait ses débuts dans le chœur du Capitole au milieu des années 80 avant de terminer sa carrière lyrique au même endroit, au Théâtre du Capitole en 2013, en y interprétant La Manon de Massenet. Autant dire que vous trois, Anne-Marie, Robert et Serge, vous la connaissez bien, vous l'avez souvent entendue sur scène, entre autres à Toulouse. Qu'est-ce que vous pensez de ses qualités de récitaliste maintenant qu'elle a définitivement tourné les doigts à l'opéra et qu'elle s'est lancée dans une carrière de touche-à-tout, appelons ça comme ça, où elle chante aussi bien de la bossa nova que du Michel Legrand, et donc de la mélodie française et des leaders? Il me semble que c'est vraiment un défi pour elle.
Alors, puisque Eric, vous faites référence à cette Manon de 2013, si je me trompe, effectivement, et rappelons simplement qu'elle était accompagnée par le merveilleux des Grieux de Charles Castronovo, qui avait fait un véritable...
Toujours lui,
mais Dieu sait qu'il avait été, hein, Anne-Marie.
Oui, je m'en rappelle.
Il avait été un des Grieux à tomber par terre.
Fradate, oui.
Littéralement. Bon, alors j'ai la parole, c'est pas facile de parler de ce récital, je n'hésite pas à le dire, hein, parce que à l'époque de cette Manon, Nathalie Dessay nous avait bien dit à tous qu'elle ne voulait plus entendre parler d'opéra, que c'était quelque chose qui était maintenant dans le rétroviseur pour
derrière,
elle.
Définitivement.
Voilà, définitivement. Elle me disait lors d'un entretien que maintenant elle est appelée sur les planches de théâtre, à faire du théâtre à Paris, que déjà écrivait pour elle, etc., etc. En fait, ce que l'on peut constater, c'est que je ne suis pas très sûr qu'elle ait entamé une grande carrière théâtrale. Je ne pense pas, ou alors du moins, c'est pas, l'information n'est pas descendue jusqu'à Toulouse. Hein. Et donc aujourd'hui, elle revient à ses premières amours, j'en sais rien. Hein. Mais effectivement, comme vous le disiez très justement, après avoir fait ce qu'on appelle du crossover, hein, fait de la variété, beaucoup Michel Legrand... Voilà, bon, c'est-à-dire du chant de micro qui, fatalement, on le sait, Roberto Alagna lui-même m'avait dit la difficulté qu'il avait à aller chanter le bal masqué à Vienne après avoir fait une tournée de sicilienne, là, sa tournée de crooner latino-américain, etc. Et parce que ça déplaçait la voix, tout simplement. Aujourd'hui, elle revient dans de la mélodie et dans de l'opéra aussi, des rôles qui, à ma connaissance, entre autres, la Marguerite du Fosse de Gounod, où elle chante, si je ne me trompe, dites-moi-le, C'est l'ère des bijoux.
Oui, oui.
Voilà.
C'est hein. Le programme.
Voilà. Donc, alors, bon, on voit bien qu'elle se tient maintenant éloignée. Bon, bien sûr, elle le sait. Elle est intelligente et des grands rôles de colorature hyper aigus. Bon, moi, je ne sais pas du tout dans quel état est sa voix. Votre question, c'est est-ce qu'un chanteur d'opéra peut être un récitaliste? Oui, bien sûr, oui. Oui, oui.
Il y en a, il y a des exemples.
Dietrich Fischer-Dieskau, Elisabeth Schwarzkopf, Christelle Douzy, enfin, il y en a des tonnes et des tonnes. Enfin, tonnes, pardonnez-moi, c'est trivial, mais il y en a de très nombreux.
Oui, de nombreux exemples.
Voilà, de nombreux exemples. Régine Crespin était une parfaite récitaliste. Hein. Ses nuits d'été, bon, voilà, c'est un grand souvenir. Voilà, j'espère que ça va marcher, j'espère pour le public, j'espère pour elle aussi. N'oublions pas que nous sommes dans le théâtre vivant et que donc, voilà, il faut donner sa chance à tout le monde. Alors, moi, mon avis, c'est que je ne sais pas du tout ce que peut donner ce genre de spectacle.
Mais vous êtes d'accord avec moi que c'est un défi quand même pour elle.
C'est un défi, oui. Hein.
Serge, Anne-Marie.
Oui, c'est un défi qu'elle a déjà tenté de relever il y a quelques années après avoir arrêté l'opéra. Elle était venue à la Hallograine dans le cadre des saisons des grands interprètes. C'était loin d'être probant tout à fait.
Mais elle avait chanté avec son mari, je crois, à l'époque.
Oui, elle avait chanté une fois avec son mari et une autre fois avec Assar également. Bon, pour elle, je pense que ça a été très difficile parce qu'à l'opéra, c'était surtout, en fait, c'était beaucoup une bête de scène. Non seulement elle avait des rôles avec des aigus incroyables, mais c'était souvent, bon, elle a commencé par des tas de reines de la nuit, des rôles très, très aigus, des suraigus. Lucia de la Mermoor, enfin, etc. Et ensuite, c'est vrai que faire du récital ou même tenter d'autres répertoires, ça suppose une voix qui a d'autres assises, disons, que simplement des aigus inouïs. Donc, c'est très difficile pour elle. Peut-être qu'elle y arrivera, mais ça ne sera pas si facile. Je crois qu'elle est quand même musicienne, que donc là, par exemple, le récital qu'elle va donner au Capitole avec Cassar est très intéressant parce qu'elle y chante là quand même vraiment. Il y a des airs d'opéra, puis des mélodies et des leaders. Donc, c'est un récital qui n'est pas du crossover. C'est vrai?
Non,
c'est... Donc, elle peut aussi tenter dans ce répertoire de faire vraiment une percée pour être quelqu'un qui défend ce répertoire comme une grande professionnelle qu'elle est. Je crois qu'on peut lui laisser aussi sa chance. Mais elle a trop dit qu'elle arrêtait l'opéra comme une sorte de défi. C'est quelqu'un qui a besoin de se prouver même à elle-même qu'il fallait absolument arrêter l'opéra, alors que ce que quand même on a entendu d'elle dans Manon montrait qu'elle était loin d'être finie sur le plan vocal. Elle assurait encore beaucoup de choses, mais peut-être que là, le récital toulousain prouvera qu'elle a trouvé sa voix à nouveau.
En tout cas, c'est une curiosité que ce programme et ce défi donc, va tenter de relever Nathalie Dessay, accompagnée par Philippe Cassard. Je l'ai dit au programme, il y a des mélodies de Debussy. Mais je vous propose qu'on écoute tout de suite le duo Nathalie Dessay-Philippe Cassard dans l'interprétation d'une des mélodies de jeunesse de Claude Debussy, « Nuit d'étoiles ».
Triste lueur qui sommeille, je
Nuit d'étoiles, mélodie composée par le jeune Claude Debussy en 1876 sur un poème de Théodore de Morville, chanté par Nathalie Dessay, accompagné au piano par Philippe Cassard. Vous pouvez les retrouver tous les deux ce lundi 16 avril à 20h au Théâtre du Capitole, où ils donnent un récital dans le cadre de la Saison Bleue, au programme des mélodies de Chausson et Debussy, donc des leaders de Schubert et Pfizer et des airs d'opéra de Mozart et Gounod. Il y a aussi dans l'actualité de la semaine prochaine deux concerts de l'Orchestre National du Capitole à la Halle aux Grains. Le premier a lieu ce dimanche 15 avril à 10h45 sous la direction de Christophe Mangou. Il est destiné à un public familial et au jeune public et a pour titre Prince et Princesse. Le second est programmé vendredi 20 avril à 20h. Il est intitulé Horizon Russe et l'Orchestre National du Capitole va y accompagner le grand violoniste Serge Kachatrian sous la direction du chef russe Stanislav Kochanowski. Au programme, le concerto pour violon numéro 1 de Shostakovich et la symphonie Manfred de Tchaïkovski. Anne-Marie et Serge, on va plutôt parler du concert que donne donc Serge Kachatrian le vendredi 20 avril avec l'Orchestre du Capitole sous la direction de Stanislav Kochanowski. Alors, il faudrait qu'on présente, est-ce nécessaire d'ailleurs, Serge Kachatrian, grand virtuose arménien du violon depuis maintenant de nombreuses années et qu'on a vu déjà plusieurs reprises au Capitole.
Oui, il a débuté très jeune. La première fois qu'il est venu, il y a déjà quelques années. C'est un très très grand violoniste qui est né en 1985. Donc,
il a 33 ans. Il vient d'avoir
33 ans. Et qui a remporté quand même le premier prix du concours international de violon Sibelius à Helsinki en 2000.
Il avait 15 ans.
Oui. Donc c'était tout de même extraordinaire. C'était d'ailleurs le plus jeune lauréat de l'histoire de ce concours. Et puis il a eu d'autres prix, Reine Elisabeth, etc. Bon. Mais au-delà de tous ces prix, c'est vraiment une personnalité qui a un son particulier, un son d'une richesse incroyable et une sensibilité très touchante. Donc vraiment, je me réjouis de l'entendre dans ce concerto numéro 1 de Shostakovich. Sûrement que c'est une musique qui lui parle.
Et oui, donc, il a déjà joué de très nombreuses fois.
Bien sûr. Donc vraiment, c'est un grand plaisir que l'on a là de l'accueillir de nouveau. Il faut dire peut-être que le chef Stanislav Kochanowski vient pour la première fois à Toulouse, il n'était jamais venu, donc on l'accueille avec grand plaisir. Et il va diriger, outre donc la partie orchestrale du concerto de Shostakovich, une œuvre qui est très rarement donnée finalement, la symphonie Manfred de Tchaïkovski. Il faut quand même préciser qu'elle a été composée par Tchaïkovski entre sa symphonie numéro 4 et la symphonie numéro 5. Et c'est une symphonie qui dure au moins autant que l'une et l'autre des deux symphonies qu'il encadre.
Voilà, c'est pas une petite symphonie mineure qu'il aurait composée en passant.
Il l'a composée sous l'impulsion de Balakirev, auquel d'ailleurs elle est dédiée, en quatre mouvements, une véritable symphonie, mais qui est basée sur le Manfred. Donc, il y a d'autres compositeurs, Schumann notamment, qui a écrit aussi une musique pour Manfred. Et donc, c'est vraiment très intéressant d'entendre un programme avec ces deux œuvres, toutes les deux russes, mais dont la deuxième est rare, vraiment rare. Le concerto de Shostakovich, on l'a déjà entendu plusieurs fois,
oui.
Numéro 1.
Anne-Marie, peut-être un petit mot sur Serge Kachatrian.
Non, plutôt sur Kochanowski, oui, qui est un chef qui n'est jamais venu à Toulouse, c'est vrai, qui est né à Saint-Pétersbourg, alors Leningrad, puisque les Soviétiques ont eu
il
des
noms. Il est né avant la chute du mur.
Avant la chute du mur, donc ça s'appelait Leningrad, et ensuite c'est redevenu Saint-Pétersbourg. Il a étudié au conservatoire Rimsky-Korsakov de Saint-Pétersbourg, le même conservatoire où a aussi étudié Tuga Tsokiev. Oui. Qui est une vraie pépinière de grand talent.
Évidemment.
Et qu'ensuite, il a commencé sa carrière aussi à Saint-Pétersbourg et notamment au Mariinsky, où il a eu l'occasion d'élargir son répertoire, de diriger aussi pas mal d'opéras. Et aujourd'hui, sa carrière s'épanouit au plan international. Et il dirige un petit peu partout. Mais à Toulouse, c'est vraiment la première fois. Donc, on l'attend. Et je pense que ça, dans ce répertoire...
Ça devrait être une belle découverte, je pense.
Sûrement, oui.
Voilà. Alors, vous parliez de l'orchestre, du théâtre Mariinsky. On va écouter justement une version du concerto pour violon et orchestre numéro 1 de Shostakovich, le premier mouvement, Nocturne, interprété par Serge Kachatrian avec l'orchestre du théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg sous la direction, bien sûr, de Valérie Gergiev. Nocturne, le premier mouvement du concerto pour violon et orchestre numéro 1 de Chostakovitch, joué par Sergueï Kachatryan, accompagné ici par l'orchestre du théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg, dirigé par Valérie Gergiev. Sergueï Kachatryan, et non pas Serge, comme je l'ai dit, c'est Serge Chosy qui m'a fait la remarque d'ailleurs, et donc en concert avec l'Orchestre National du Capitole, dirigé par Stanislav Kochanowski, vendredi prochain 20 avril à 20h à la Hallograin. Au programme, outre le concerto pour violon numéro 1 de Chostakovitch, la symphonie Manfred de Tchaïkovski. Et puis je voulais que nous gardions quelques instants pour parler du concert que donne l'orchestre En Harmonie et le pianiste Philippe Montferrand sous la direction de notre camarade Serge Krichevski ce samedi 14 avril à 20h30 à Saint-Pierre-des-Cuisines. Vous vouliez nous en parler, Serge Chosy, d'autant plus qu'il est organisé au profit d'une œuvre caritative. Quelle est cette œuvre et quel est le programme de ce concert?
Alors, l'association caritative s'appelle Plus de soleil pour nos aînés. Elle est parrainée par Hôpital Sourire, que l'on connaît par ailleurs. Donc, c'est un concert caritatif important et qui rassemble deux compositeurs, Edvard Grieg et Franz Schubert. Alors, de Grieg, on entendra la suite numéro 1 de la musique de scène Peer Gynt, œuvre très connue, évidemment.
Toujours très agréable à
entendre. Très belle. Et également son concerto pour piano, donc... Autre œuvre, autre cheval de bataille des grands virtuoses, des grands pianistes. C'est une œuvre complexe. Hein.
Oui, il y a une version magnifique de Rubinstein avec le London Symphony Orchestra, pour ceux qui voudraient aller l'écouter.
N'est-ce pas ? Et donc, on aura ceci, et également la 6e symphonie de Schubert, que l'on a entendu récemment dans un concert Grands Interprètes, d'ailleurs, et là, qui sera donc donnée par cet orchestre d'En Harmonie, un bel orchestre hein, qui vraiment enrichit le paysage musical hein, toulousain symphonique, qui sera dirigé par donc Serge Krichevski, et le soliste du concerto de Grieg, c'est donc Philippe Montferrand, un élève de Dominique Merlet et du Conservatoire de Paris.
Très bon pianiste.
Excellent pianiste que l'on entend régulièrement à Toulouse et qu'on se réjouit de réentendre dans ce concerto.
Oui, très beau programme. Je pense que ce sera magnifique avec ces musiciens-là et notamment Philippe Montferrand, bien sûr. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette émission en ma compagnie. Je rappelle que les représentations de Carmen se poursuivent jusqu'au 19 avril et qu'il en reste encore trois à voir dimanche 15 avril à 15h, mardi 17 et jeudi 19 à 20h. Vous pouvez vous renseigner pour savoir s'il reste des places sur le site du Théâtre du Capitole, www.theatredukapitole.fr. Vous pouvez également vous renseigner et réserver sur ce même site du Théâtre du Capitole pour le récital Portrait de femme de Nathalie Dessay et Philippe Cassard, lundi 16 avril à 20h, dans le cadre de la saison bleue, mais donc donné au Théâtre du Capitole. Concernant les concerts de l'Orchestre National du Capitole à la Hallograin, Prince et Princesse ce dimanche 15 avril à 10h45 et Horizon Russe vendredi 20 avril à 20h avec Sergueï Kachatryan. Informations et réservations sur le site www.onct.toulouse.fr. Notez aussi que Louisa Miller, l'opéra de Giuseppe Verdi, est projeté en direct du Met de New York dans les cinémas Gaumont-Wilson et La Beige ce samedi 14 avril à 18h30 avec entre autres Sonia Yoncheva et Placido Domingo dans les rôles principaux. Vous pouvez vous renseigner et réserver vos places sur le site www.cinemagaumontpaté.com. Et enfin, pour le concert caritatif que donne l'orchestre En Harmonie et le pianiste Philippe Montferrand ce même samedi 14 avril à 20h30 à Saint-Pierre-des-Cuisines, vous trouverez tous les renseignements sur le site www.orchestre.enharmonie.free.fr. Un grand merci à Christophe Aubry d'avoir assuré la régie technique de cette émission qui est disponible et réécoutable en podcast dès aujourd'hui sur le site de Radio Présence. Je rappelle que Mélomanie est diffusée les vendredis à 19h ainsi que les samedis à 10h. Merci encore de votre fidélité. Je vous souhaite à tous une excellente semaine musicale.